Mondial, âgé de 17 ans, a cédé face à la tête de série numéro 22. Défaite 6-2-7-5, RFI, 9h10, ici à Paris. Excellente journée à l'écoute de la Radio du Monde.
Radio G, 101.5 FM.
Court d'idées de lecture, envie de découvrir de nouveaux genres ou juste à la recherche d'un premier pas dans le monde des livres, Voix au chapitre, c'est ta dose hebdomadaire de découverte littéraire. Un livre, un extrait, deux émissions. Juste ce qu'il faut pour réveiller la curiosité et l'envie de tourner les pages. Présenté par Manuela, tous les samedis à 9h10 au 101.5 FM ou sur radio-g.fr. Bonjour à toutes et à tous pour un nouveau samedi matin de lecture. J'espère que vous passez une bonne semaine. La semaine dernière, nous nous étions plongés dans un livre de non-fiction appelé « La vie secrète des arbres » écrit par Peter Wolben. Nous avions exploré les secrets de la communication entre ces individus feuillus. Le nouveau chapitre présenté aujourd'hui cherche à trouver ce qui définit un arbre. Je vous laisse avec cet extrait, à tout à l'heure. Et bonne écoute sur Radio G. Les pousses qui forment le buisson, nettement plus récents puisque apparus lors des derniers siècles, n'ont pas été considérées comme des arbres en soi, mais bien comme des parties de l'ensemble. Et si je peux donner mon avis, à raison, tant il est évident que le rôle de la souche a été plus important que celui de la formation extérieure. C'est elle qui a assuré la survie de l'organisme. Elle qui a résisté aux fortes variations climatiques et sans cesse développé de nouveaux troncs. Dans ses entrailles sont stockées des milliers d'années d'informations qui lui ont permis de survivre jusqu'à aujourd'hui. Au passage, cette épicéa a fait un sort à quelques doctrines scientifiques. Jusque-là, personne ne savait que l'espèce pouvait largement dépasser les 500 ans. Surtout, il était généralement admis que les épicéas n'étaient apparus dans cette partie de la Suède que 2000 ans après le recul des glaciers. Pour moi, ce petit végétal qui n'a l'air de rien est symbolique du peu que nous comprenons des arbres et des forêts, et de tous les prodiges de la nature qu'il nous reste encore à découvrir. Mais revenons à l'importance de la souche. Il est possible qu'elle soit le siège d'une sorte de cerveau de l'arbre. Une sorte de cerveau ? N'est-ce pas un brin exagéré ? Peut-être, cependant nous savons que les arbres peuvent apprendre et par conséquent qu'ils stockent des informations. Il faut bien qu'il y ait quelque part dans leur organisme un lieu pour cela. Nous ignorons où ce quelque part se trouve, mais les racines seraient bien adaptées. D'une part, les vieux épicéas de Dale et Carly témoignent que les organes souterrains sont les plus durables de l'arbre. Sinon, où stockerait-il à long terme des informations importantes ? D'autre part, s'il y a un enseignement à tirer de la recherche actuelle, c'est bien que le délicat réseau racinaire n'est jamais avare de surprises. Jusque-là, il était unanimement admis qu'il pilotait chimiquement toutes les fonctions. Rien de déshonorable à cela, chez nous aussi, de nombreux processus sont régulés par des messagers chimiques. Les racines absorbent des éléments nutritifs, les transportent, diffusent en retour les produits de la photosynthèse aux partenaires champignons et transmettent même des avertisseurs chimiques aux arbres voisins. Mais il y aurait un cerveau. Pour ce que nous en savons, pour qu'il y ait un cerveau, il faut qu'il y ait des processus neuronaux. Et ceci implique qu'il y ait, outre des messagers chimiques, également des signaux électriques. Des signaux électriques justement. La science en détecte depuis le 19e siècle. Alors les plantes ont-elles un cerveau ? Sont-elles intelligentes ? Ce n'est rien de dire que le débat qui anime la communauté scientifique depuis des années est vif, František Baluska de l'Institut de botanique cellulaire et moléculaire de l'Université de Bonn pense, en accord avec d'autres de ses collègues, que les pointes des racines sont équipées de dispositifs similaires à un cerveau. Elles présentent en effet, outre un système de transmission des signaux, des structures et des molécules que l'on observe également chez les animaux. La racine qui progresse dans le sol est à même de capter les stimuli. Les chercheurs ont détecté des signaux électriques qui, après avoir été traités dans une zone de transition, induisent des modifications du comportement. Quand les racines rencontrent des substances toxiques, des pierres infranchissables ou des milieux trop humides, elles analysent la situation puis transmettent les changements nécessaires aux zones qui assurent la croissance. Celles-ci changent alors de direction et contournent l'obstacle. En déduire que ces racines sont le siège d'une intelligence, d'une aptitude à se souvenir et à ressentir des émotions, est vivement critiquée par une majorité d'universitaires. Ils contestent le rapprochement avec des situations similaires chez les animaux, notamment parce qu'il tend à effacer la frontière entre monde végétal et monde animal. Et alors, serait-ce si terrible ? La division entre végétal et animal est un choix arbitraire, essentiellement basé sur le mode de nutrition. L'un pratique la photosynthèse, l'autre ingère des organismes vivants. La seule véritable différence concerne le temps nécessaire au traitement des informations, puis à leur transformation en action. Mais les organismes lents sont-ils nécessairement inférieurs aux organismes rapides ? Je me demande parfois si nous ne serions pas contraints de traiter les arbres et l'ensemble des végétaux avec plus d'égards s'il s'avérait sans contestation possible qu'ils partagent de nombreuses facultés avec les animaux. Question de caractère. Sur la route départementale entre mon village de Hummel et la commune voisine, dans la vallée de l'Aar, il y a trois vieux chênes. Ils sont un élément marquant de ce paysage ouvert qui a été nommé d'après eux. Les trois troncs sont exceptionnellement proches les uns des autres. Seuls quelques centimètres les séparent. Cela en fait pour moi de parfaits sujets d'observation, car ils bénéficient de conditions naturelles identiques. Sol, ressources en eau, microclimat environnemental ne peuvent pas changer trois fois en l'espace d'un mètre. Si les chênes ont des comportements différents, cela est nécessairement imputable à des caractéristiques individuelles. Et ils se comportent différemment. Que ce soit l'hiver quand ils sont totalement dénudés ou l'été quand leur feuillage a atteint sa pleine croissance, l'automobiliste qui passe devant en voiture ne remarque pas qu'il s'agit de trois arbres. Leurs houppiers qui s'entremêlent forment une grande demi-sphère. Les trois troncs pourraient provenir d'une seule souche, comme c'est le cas d'arbres coupés qui émettent des rejets. Il n'en est rien. Le trio le prouve à l'automne. Le chêne de droite commence à changer de couleur alors que celui du milieu et celui de gauche sont encore uniformément verts. Ce n'est qu'une à deux semaines plus tard qu'ils emboîtent le pas à leurs congénères sur le chemin du repos hivernal. S'ils bénéficient de conditions environnementales identiques, la raison de ce décalage doit être ailleurs. Le moment où un arbre se sépare de son feuillage est effectivement une question de caractère. Cette opération est une nécessité, mais comment savoir quand le bon moment est arrivé ? Les arbres ne peuvent pas sentir l'hiver approcher, ils ne peuvent pas savoir qu'il sera froid ou doux, ils enregistrent la décroissance des phases lumineuses et la baisse des températures. Si tant est qu'elles baissent, il n'est pas rare que le thermomètre affiche encore des températures de fin d'été en automne. De quoi poser un vrai casse-tête à nos trois chênes. Que faire ? Profiter de la douceur ambiante pour continuer à réaliser la photosynthèse et vite engranger quelques calories supplémentaires avant l'hiver ? Ou bien jouer la sécurité et se défeuiller sans attendre, au cas où un brusque épisode de gel contraindrait à un repos précipité ? Apparemment, chacun des trois arbres a un avis différent. Celui de droite est plus anxieux, ou pour l'exprimer de façon positive, plus raisonnable. À quoi bon des réserves supplémentaires si l'on ne peut plus se séparer de ses feuilles et que l'on se retrouve à traverser l'hiver avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête? Mieux vaut lâcher les feuilles et hop, au pays des rêves. Les deux autres sont plus téméraires. Qui sait ce que le printemps suivant apportera? Combien d'énergie une soudaine invasion d'insectes engloutira et ce qu'il restera ensuite de réserve? Mieux vaut garder les feuilles et remplir à ras-bord les réservoirs, sous l'écorce et dans les racines. Jusque-là, cette option s'est avérée un bon choix. Mais qui sait combien de temps cela va durer ? Avec le réchauffement climatique, les températures automnales restent plus longtemps élevées. Le feuillage demeure parfois jusqu'à la première semaine de novembre. Or, le début de la saison des tempêtes n'a pas changé et survient toujours en octobre, de sorte que le risque qu'une bourrasque renverse un arbre couvert de feuilles augmente. Je crains qu'à terme, les arbres prudents aient de meilleures chances de survie. On peut observer les signes d'une même témérité sur les troncs de feuillus, mais aussi des sapins blancs. Le règlement intérieur de la forêt veut qu'il soit long et lisse, donc dépourvu de branches basses, ce qui est pertinent compte tenu du manque de luminosité des étages inférieurs. S'il n'y a pas de lumière solaire exploitable, les parties inutiles de l'arbre, qui ne feraient que gaspiller des éléments nutritifs, sont mis hors service. Le phénomène est comparable à celui de nos muscles, qui s'atrophient pour économiser des calories s'ils ne sont pas utilisés. Mais les arbres ne peuvent pas couper leurs branches, ils peuvent seulement les laisser mourir. Les champignons qui envahissent le bois mort doivent ensuite prendre le relais. Un jour, la branche vermoulue tombe au sol, où elle se transforme progressivement en humus. L'emplacement de la cassure ne peut rester en l'état. Les champignons pourraient continuer de pénétrer et progresser dans le tronc dépourvu d'écorce. Pour le moment, la blessure est à vif, mais cela ne peut être que temporaire. Si la branche n'était pas trop grosse, jusqu'à 3 cm de diamètre, il ne faut que quelques années à l'arbre pour recouvrir la cassure, car il peut, de l'intérieur, recommencer à irriguer l'emplacement de l'ancienne branche, ce qui entraîne la mort des champignons. Si la branche était très grosse, le processus de cicatrisation prend trop de temps. La plaie qui reste ouverte plusieurs dizaines d'années permet à des générations de champignons de poursuivre leur travail de sape toujours plus profondément dans le bois. Le tronc pourrit et perd de sa stabilité. D'où l'impératif de ne développer que des branches de petit diamètre en partie basse. Une fois que l'arbre s'en est naturellement défait à mesure qu'il grandissait, il ne doit sous aucun prétexte en laisser repousser. C'est pourtant ce qui se passe chez certains. Qu'un voisin vienne à disparaître, aussitôt ils utilisent l'abondance de lumière pour former de nouveaux bourgeons aussi bas que possible. De grosses branches se développent, tout d'abord très performantes. Les arbres profitent à plein de l'opportunité de réaliser la photosynthèse, à la fois au niveau du houppier et du tronc. Vient pourtant un jour, peut-être une vingtaine d'années plus tard, où les houppiers des arbres voisins ont tellement grossi que la fenêtre de lumière se referme. Il fait de nouveau sombre au premier étage de la forêt et de grosses branches basses meurent. Alors, comme décrit plus haut, les champignons envahissent les troncs et leur avidité se retourne contre les ignorants qui en voulaient toujours plus. Ce comportement n'est pas une caractéristique générale, mais un trait individuel. En somme, une histoire de caractère. Vous pourrez le vérifier lors d'une prochaine promenade en forêt. Observez les arbres autour d'une petite clairière. Ils sont tous tentés de développer de nouvelles branches sur leur tronc. Pourtant, seule une partie d'entre eux succombe à la tentation. Les autres, prudents, choisissent de préserver l'intégrité de leur écorce et s'épargnent ainsi d'inévitables déboires. Vous écoutez toujours Voix au chapitre sur Radio G, au 101.5 FM ou sur radio-g.fr, où je vous plonge aujourd'hui dans le livre « La vie secrète des arbres » de Peter Wolleben. Bonne écoute. Histoire d'eau. Comment l'eau contenue dans le sol parvient-elle à monter jusqu'aux feuilles? Cette question est pour moi emblématique de l'état actuel des connaissances sur les arbres. Le transport de l'eau est un mécanisme relativement simple à analyser, en tout cas plus simple que l'exploration de la sensibilité à la douleur ou l'aptitude à communiquer. Il paraît si banal que cela fait des décennies que l'enseignement universitaire propose des explications remarquablement simples et triviales. Cela m'amuse toujours d'aborder le sujet avec des étudiants. Leur réponse, sans surprise, évoque les phénomènes de capillarité et de transpiration. La capillarité, vous pouvez l'observer tous les matins au petit déjeuner. C'est elle qui fait monter le niveau du café de quelques millimètres sur le bord de la tasse. Sans ce phénomène, la surface du liquide serait parfaitement plane. Plus le contenant est étroit, plus le liquide qu'il contient peut monter. Et les vaisseaux des feuillus sont très fins. Leur section ne dépasse pas 0,5 mm. Les conifères font encore mieux dans la finesse avec une section de seulement 0,02 mm. Pour autant, cela ne suffit pas, tant s'en faut, à expliquer comment l'eau parvient au houppier d'arbre, mesurant plus de 100 mètres de hauteur, car même dans les tubes les plus fins, la capillarité permet tout au plus de monter d'un mètre. Mais une autre candidate entre en jeu, la transpiration. Pendant les mois d'été, les feuilles et les aiguilles évaporent d'abondantes quantités d'eau par transpiration, jusqu'à plusieurs centaines de litres par jour pour un être adulte. Il résulte du mécanisme d'un effet d'aspiration qui tracte vers le haut l'eau circulant dans les vaisseaux. Il est vrai que cela ne marche que si la colonne d'eau est intacte. Les molécules d'eau s'agrègent les unes aux autres par effet de cohésion et ainsi accrochées à la queue leu-leu se déplacent progressivement vers le haut à mesure que l'évaporation libère de l'espace dans la feuille. Mais cela ne suffit pas. Il faut encore que l'osmose, à son tour, entre en jeu. Quand la concentration en sucre d'une des cellules est plus élevée que dans ses voisines, l'eau passe à travers les parois de la cellule où elle est la moins concentrée, vers la cellule où elle l'est le plus, jusqu'à ce que la teneur en sucre s'équilibre parfaitement entre les deux. Si le mécanisme se poursuit de cellule en cellule jusqu'au houppier, l'eau finit par atteindre les feuilles. Pas sûr, mais continuons. C'est au printemps, juste avant le débourrement, que l'on enregistre les tensions les plus fortes sur les colonnes d'eau. À cette époque, l'eau circule avec une telle intensité dans l'arbre que l'on peut l'entendre en posant un stéthoscope sur le tronc. La méthode est utilisée pour la récolte de l'eau d'érable dans les états du nord-est de l'Amérique du Nord. Cette très convoitée eau d'érable, qui deviendra sirop par évaporation, se collecte uniquement au moment de la fonte des neiges. Les feuillus ne portant pas encore de feuilles en cette saison, ils n'évaporent pas d'eau. La transpiration est donc exclue comme force motrice. La capillarité, comme nous l'avons vu, ne permettant pas de gagner plus d'un mètre, le mécanisme est négligeable. Pourtant, le tronc est bel et bien gorgé d'eau. Reste l'osmose, mais je suis dubitatif. Elle ne concerne que les racines et les feuilles, pas le tronc, qui n'est pas constitué d'une liaison de cellules, mais de longs conduits qui parcourent toute sa hauteur. Alors quoi ? Alors, nous sommes devant une énigme. Les travaux les plus récents ont toutefois mis en évidence quelque chose qui remet en question les rôles de la transpiration et de la cohésion cellulaire. Des chercheurs de l'Université de Berne, du WSL et de l'École Polytechnique Fédérale de Zurich ont exploré le phénomène acoustique, notamment de nuit, et ils ont constaté que les arbres qu'ils auscultaient émettaient un léger murmure. La nuit, les troncs contiennent un maximum d'eau, car la photosynthèse est temporairement en pause et le houppier transpire à peine. Les arbres en profitent pour se gorger d'eau, au point que cela entraîne un léger accroissement du diamètre des troncs. À l'intérieur des vaisseaux, l'eau est quasiment à l'arrêt, rien ne circule. D'où proviennent donc les bruits ? Les chercheurs supposent qu'ils sont générés par la formation de minuscules bulles de CO2 dans les fins tubes remplis d'eau. Des bulles dans les vaisseaux. Cela signifie que le flux d'eau qui les emprunte est interrompu des milliers de fois, et par voie de conséquence que la transpiration, la cohésion et la capillarité ne contribuent guère au transport. Les questions sans réponse se bousculent. Une explication plausible s'évanouit. Mais sommes-nous vraiment perdants ? Ce nouveau mystère n'a-t-il pas quelque chose de stimulant ? Quand j'ai lu ce livre pour la première fois, il y a quelques années, je l'ai trouvé fascinant. Les informations sont intéressantes, pertinentes et expliquées de manière accessible pour les profanes. Nous étions donc sur le livre « La vie secrète des arbres » de Peter Wolben, qui est disponible aux éditions Les Arènes, dans la collection Poche, ou dans une magnifique édition illustrée, de nouveau chez Les Arènes, et finalement aussi au format BD, toujours dans la même maison d'édition. Petite information complémentaire pour les personnes qui chercheraient le bouquin, le nom de famille de Peter s'appelle W-O-H-2-L-E-B-E-N. Je sais que je mâche un peu son prénom depuis le début et je suis même pas sûre de la prononciation, donc dans le doute, je vous l'appelle. Voilà. Pour réécouter les deux émissions dédiées à ce livre, vous pouvez vous rendre sur le site radio-g.fr, rubrique Voix au chapitre. Retrouvez-moi la semaine prochaine pour une nouvelle découverte littéraire avec un livre autobiographique qui explore les mystères de l'esprit d'un auteur mondialement célèbre. En attendant, restez connectés sur Radio G pour l'émission Samedi Souvenir de 10h à midi. Il est temps de tourner la page pour aujourd'hui. Bon week-end!
It's close to three. What is this supposed to be? I don't like to let nobody get close to me. I don't ever let nobody get close. It's just you and me. But if walls could speak, they would tell us that the moment is ours to keep. They would tell us that the moment.